Oui, je me présente, je suis malien. J'ai quitté la ville au Mali, à Bamako. Oui, je suis 17 ans. J'ai quitté au Mali à 15 ans. Oui, j'ai arrivé pour la France. J'ai passé pour Niger, Libye et Italie, après la France. En France, j'ai rentré Nice. J'ai pris le terrain et j'ai volé le terrain à Nice jusqu'à Marseille. Après, je dors à la gare là-bas, à la nuit. C'est le dernier train qui passait à Marseille pour venir à Toulouse. Parce que la police fait l'enquête, j'ai sapé pour. Je ne sais pas comment je viens à Toulouse même. J'ai rentré dans le train qui vient à Toulouse. C'est de Toulouse, je dors à la gare là-bas, des jours comme ça. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas comment ça passe. Je rencontrais avec une femme, c'est africain. Et je crois que c'est sénégalien, je crois qu'il habitait à Albissi. Et il m'a dit de parler, il me demandait quelque chose, et je répondais. Il dit que moi j'habitais à Albi, il y a un sachant qui est là-bas, il va récupérer les enfants et récupérer tout.
Témoignages d'exil, récits de mineurs isolés. En septembre, sur les ondes de Radio Albigès, nous vous proposions un premier témoignage de mineurs isolés. En voici un second, des histoires qui se ressemblent, mais des récits qui sont tous singuliers. Prêtez l'oreille à cette singularité qui se fraye un chemin, et c'est de se dire, malgré les difficultés d'une langue qui n'est pas la sienne, malgré l'empêchement des douleurs vécues.
Alors Jean-Pierre Rosenzweig, vous venez d'écrire un livre qui concerne les enfants, qui les met en cause. Vous étiez, il n'y a pas si longtemps, juge et vous les avez connus, vous en avez connu plusieurs milliers.
Jean-Pierre Rosenzweig, 19 novembre 1989, journal d'Antenne 2.
Vous êtes aussi le directeur de l'Institut de l'enfance et de la famille et demain, l'ONU va prendre en considération, je dirais, un peu plus les enfants. Oui, est-ce que c'est une chose qui est, j'allais dire, une charte supplémentaire?
Non, justement,
ou
c'est
un
pas...
texte important.
Ce n'est pas une charte supplémentaire et c'est un texte important. Ce n'est pas une charte, c'est une convention. Une convention, c'est un texte contraignant pour les États, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont signer, apposer leur signature sur ce texte, et la France sera parmi les premiers, ils seront engagés politiquement et juridiquement. Ils pourront se voir condamnés par les tribunaux, notamment.
Ça va changer quoi pour les enfants, ça?
Ça veut dire que ça va nous amener, par exemple en France, à adapter notre droit, et le gouvernement s'y emploie sous l'égide de Mme Dorlac, qui est secrétaire d'État chargée de la famille, et qui pilote ce dossier. Il va falloir adapter nos textes, car ce texte est révolutionnaire sur un certain nombre de points, et même nous qui avons un haut niveau de protection de l'enfance, nous allons devoir améliorer notre dispositif, et puis surtout le cœur de ce texte, c'est de reconnaître que l'enfant est une personne comme les autres, et c'est de ce point de vue-là où ce texte est important pour les droits de l'homme, c'est que pour la première fois de manière explicite, il est dit que les droits de l'homme sont ouverts aux enfants. Il ne faut pas attendre 18 ans pour avoir accès aux droits de l'homme, ça veut dire quoi simplement? Liberté d'expression, liberté de penser d'abord, liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté d'association.
Novembre 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant est adoptée à l'unanimité par l'ONU. La France est le deuxième pays européen après la Suède à ratifier cette convention le 7 août 1990. Ce texte, contraignant pour les 195 États qui l'ont signé, les rend responsables du respect des droits des enfants. En France, en 2018, près de 20 ans plus tard, ce texte semble relever du vœu pieux. Revendiqué par les associations qui militent pour le respect des droits, il est quotidiennement bafoué par les institutions chargées de la protection de l'enfance, conseils départementaux, aide sociale à l'enfance, parquet des mineurs. En témoigne le traitement réservé aux mineurs isolés étrangers, discriminés en leur qualité d'étrangers, laissés dans plusieurs départements à la rue ou dans des hôtels pendant des semaines ou des mois, empêchés de faire défendre leurs droits, victimes d'une politique du soupçon qui, dans de nombreux cas, aboutit à la contestation de leur minorité et bientôt fichée avec l'ouverture d'un fichier national biométrique. Elle est loin, la Convention internationale du droit des enfants. Dans le Tarn, Après avoir été laissés pendant plusieurs mois dans des hôtels, les mineurs subissent, depuis le mois de juillet, l'évaluation d'un dispositif expérimental d'évaluation, le DEE81, mis en place par l'ANRAS. Un dispositif que les associations d'aide aux sans-papiers considèrent comme une machine de tri. C'est le sort qu'a connu le jeune homme auquel nous donnons la parole, ce jeune Malien qui a passé 4 mois en hôtel, a subi quelques jours d'évaluation et puis s'est retrouvé à la rue, en dépit de documents qui attestent de sa minorité. Voici son histoire, qu'on lui laisse raconter, non pour le trier, l'évaluer, mais pour le comprendre, le connaître. On reprend à son arrivée à Albi, quand il se présente au commissariat de police pour demander à être protégé et pris en charge en sa qualité de mineur.
Bon, je venais à la police, il m'a donné un sachet, il m'a demandé les documents de naissance, j'ai donné.
Parce que toi, tu as un extrait de naissance ?
Oui, j'ai un extrait de naissance, il m'a donné, il regardait, et il dit que, la police m'a dit qu'il va vérifier dans quelques minutes. Ils sont vérifiés, après il m'a donné, il dit que c'est bien, attends, je vais t'appeler un sachet, il va te chercher. Alors, le sachet est venu me chercher pour me mettre à l'hôtel, pour me brûcher.
Bon,
hébergé à l'hôtel, il m'a dit, ils sont là, il va me demander comment je viens, mon histoire, si je suis mineur, si je ne suis pas mineur, il va vérifier mon document. Ils ont vérifié mon document, ce document c'est vrai. Après,
donc ils ont vérifié tes documents et ils ont dit qu'ils étaient vrais.
Oui, ils disent que c'est vrai. Après, il m'a donné, j'ai fait 4 mois, il ne m'a pas demandé, j'ai demandé comment, il dit que je n'ai pas brisé, je suis brisé, mais il ne m'a pas demandé comment j'ai passé, j'ai besoin pour étudier.
Parce que toi, tu voulais aller à l'école ?
Bon, j'ai besoin pour aller à l'école et il dit que non, c'est pas comme ça. Ouais. Après, il m'a donné un autre département, il dit que c'est Downey. J'ai passé là-bas et il n'est pas innocent, il m'a laissé dehors.
Donc, après ça, donc pendant 4 mois, tu vas rester à l'hôtel où il va rien se passer en fait ?
Ouais, 4 mois, j'ai resté à l'hôtel, il n'y a rien passé.
Tu vas pas à l'école, tu es juste hébergé et on te dit d'attendre en fait.
Oui. Attends.
Et c'est en juillet que tu passes au dispositif d'évaluation, donc le Daomi qui arrive sur Albi, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ouais.
Et alors là, comment ça se passe ? Tu veux nous raconter un peu comment ça se passe, l'évaluation ?
Ah, l'évaluation pour moi, parce que je ne connais pas comment il va dire pour les enfants, parce que pour moi, c'est difficile pour moi. Oui, parce que je ne comprends pas bien français.
Tu as un interprète à l'évaluation ?
Non, je n'ai pas un interprète, mais...
Personne ne traduit ?
Oui, personne ne traduit.
C'est quoi ta langue, la langue que tu parles ?
Je parle bambara.
Le bambara ?
Oui, avec kasungé.
Avec le ?
Kasungé.
Kasungé,
oui. Ok.
Et donc là, personne ne traduit dans ces langues-là que tu comprends bien ?
Pour moi, je prends le kasungé pour me traduire. Il dit que non, je parle un peu, il va me comprendre ce que je vais dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens maliens, ils sont parlés soniké, soniké, bambara.
Ouais.
Mais pour moi, il me dit que je suis débrouillé, il va me comprendre. Moi, j'ai dit, j'ai pas étudié, je comprends français, c'est ici que je prends le français. Mon français, c'était français de la rue.
D'accord, et donc ils te disent que c'est pas la peine d'avoir un interprète, que tu vas comprendre le français.
Oui.
D'accord. Ouais, ça va durer combien de temps cette évaluation ? Tu t'en souviens un peu ?
Oh, évaluation, j'ai fait un mois. Hein. Un mois là-bas.
Un mois ?
Oui, ils m'ont demandé beaucoup, beaucoup.
Beaucoup de questions ?
Oh, beaucoup de questions. Je ne sais pas beaucoup de questions parce que je ne sais pas. Je pense qu'il va me demander comment tu vis, comment tu fais. Il me demande beaucoup de choses, ce que je ne comprends pas.
D'accord.
Il faut que vous lisez aussi, il faut que je dise quelque chose.
Oui. Et alors là, après, tu vas être reconnu majeur ? Ils vont dire que tu es majeur ?
Oui, il dit que je suis majeur. J'ai dit comment ? Il dit que tu es majeur, il n'a pas donné le temps pour moi. Moi, j'ai dit d'accord, je suis allé dehors.
Tu es allé dehors,
oui.
Du coup. Voilà. Et là, donc, il y a une avocate qui te suit maintenant ?
Oui, il y a un avocat qui me suit.
Ouais, tu as vu la juge, toi ?
Oui, j'ai vu la juge, mais il n'a pas donné la réponse pour moi d'abord.
Et tu attends la réponse de la juge ?
J'attends la réponse de la juge.
Comment ça s'est passé avec la juge ? Tu as l'impression que ça s'est bien passé ?
Oui, pour moi, je dis ça a passé, mais je ne peux pas dire ça peut bien passer. Parce que si je n'ai pas validé, je ne peux pas dire ça a bien passé.
Ouais.
Enfin, c'est la juge qui va décider. Si la juge qui a décidé, je veux dire que ça a bien passé.
Et là, toi, tu es angoissé d'attendre la réponse de la juge ?
Oui.
Ouais, ça fait plus de 3 semaines, enfin, ça fait 3 semaines.
Oui, c'est 3 semaines.
Et tu trouves que c'est long ?
Ah, c'est long pour moi, mais on n'est pas déçus.
Mais ?
Mais on n'est pas déçus.
Et on n'a pas le choix, oui. Et...
y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner. Il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées que le silence pour respirer, recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les manchots s'amusent dès le soleil levant et jouent en nous montrant ce que c'est d'être vivant. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les restes si purs qu'on se baigne dedans à jouer avec le vent comme dans mes rêves d'enfant, comme avant.
Vous écoutez le récit d'un mineur isolé arrivé dans le Tarn en mars 2018, parti du Mali pour la France, des rêves à la désillusion. On reprend le cours de son témoignage.
Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as envie de faire en France ?
Oui, bien sûr. J'ai vu pour rester en France. Je sais, parce que ce que j'ai vu en France ici, j'ai passé beaucoup de pays, je n'ai pas vu. Et comme ça, pour berger les gens, pour la loi, moi je ne connais pas la loi. Mais en France ici, je connais beaucoup de choses. Je crois que si c'est bien pour moi un peu.
Tu penses que c'est bien la France ?
Ouais, c'est bien la France pour moi, parce que c'est difficile, je suis difficile, mais. Parce qu'il y a des lois, beaucoup de lois ici. Quand tu fais,
l'impression qu'il y a des lois qui te protègent.
Oui, qui te protègent. Tu vas faire ta vie quand tu suis la loi.
Ouais. Oui. Et toi, tu la vois comment ta vie après ?
Comment ?
Tu la vois comment ta vie après en France ? T'as envie d'aller à l'école ?
Bien sûr. J'ai bien aller à l'école. J'ai bien pour prendre le français bien même.
Apprendre le français ?
Apprendre le français bien même. Et tout ce que je veux vivre ici.
Ouais, oui. Tu veux vivre ici.
Oui.
Ouais. Tu avais choisi de venir en France, toi, quand tu as quitté le Mali, c'était pour venir en France ?
Non. Parce que mon français, je ne connais pas, parce que moi, je fais des Coranes.
L'école coranique ?
L'école coranique. Parce que je ne connais pas le français. Mes amis qui font partie à l'école, mais je ne sais pas, c'est différent, parce qu'il y a beaucoup d'écoles au Mali.
Donc toi, tu as parlé français au Mali.
Non, mais je ne sais pas que je viens en France. Mais quand tu dis, non, je veux dire, je ne viens pas en France. Je ne crois pas comment je viens. Mais c'est l'Italie que j'ai décidé.
Quand tu étais en Italie ?
Quand j'étais en Italie, j'ai
décidé que tu allais aller en France.
J'ai en France. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui viennent en France. On est beaucoup de nombreux là-bas. Quand on vient, on vient de beaucoup de personnes.
Toi, tu as quitté le Mali avec d'autres personnes ou tu étais tout seul quand tu as quitté le Mali ?
Oui, j'ai quitté le Mali avec une personne, c'est mon cousin.
Avec ton cousin ?
Oui.
Et après, tu l'as perdu pendant le voyage ?
Oui, pendant le voyage, j'en ai perdu parce que au Mali, je suis vivre avec ma mère. Je suis à Kalbankoura.
Tu vivais avec ta mère ?
Oui, je suis avec ma mère à Kalbankoura et je suis à dehors parce que ma mère est handicapée.
Ta mère, elle est handicapée ?
Oui, ouais. Parce qu'elle est divorcée avec mon père, mais moi, je ne connais pas cette histoire.
Tu ne connais pas ton père ?
Je ne connais pas bien.
Tu ne connais pas bien ton père.
Parce que
donc tu vivais seul avec ta maman.
Je suis maman. Quand ma mère est morte, je suis arrivé, je suis allé au coin pour aller à l'école coranique.
Ta maman, elle est morte ?
Ouais.
Ouais. Donc tu es allé à l'école ?
Non. Avant mort, je suis à l'école coranique parce qu'il dit que je fais rentrer à l'école de Coran et il ne peut pas m'aider à l'école parce qu'il n'a pas de moyens pour que je fasse à l'école.
Donc tu ne pouvais plus aller à l'école après la mort de ta maman, c'est ça ?
Non. Jamais de ma vie pour partir à l'école. J'ai fait Kabyle de Sidi, petit enfant, j'ai commencé à l'école coranique.
Quand tu étais petit, tu étais à l'école coranique?
Oui, ouais. J'ai fait beaucoup de temps à l'école coranique là-bas, parce qu'on est vu là-bas, quand on partait là-bas, on est vu là-bas. On dort à la rue, on dort pas trop parce qu'on cherchait le manger pour demander le manger pour quelqu'un.
Au Mali,
dans la rue.
Tu dormais dans la rue?
Oui, on est avec un boîtier, on demandait le manger pour quelqu'un. Parce que de notre maître, quand tu n'es pas mené de l'argent ou de chitons, il dit que tu ne rentres pas.
Quand tu es à l'école, tu n'amènes pas d'argent, du coup, ils ne te donnent pas à manger, c'est ça?
Non, parce que dans le coranique, quand le maître va te dire que va chercher les chitons.
De l'argent.
De l'argent. Parce que tu vas dire les gens, donne-moi un peu l'argent, je suis pauvre.
Donc le maître de l'école coranique, il t'envoie dans la rue chercher de l'argent.
Parce que chaque vendredi, on fait le coranique.
Ouais.
Après-midi, le coranique, on va sortir jusqu'à... On va faire une semaine, on ne rentre pas à la maison. Parce qu'on va chercher, quand on n'est pas trouvé, on ne rentre pas à la maison.
Tant que tu n'as pas trouvé de l'argent, tu ne rentres pas.
Tu ne rentres pas.
Donc c'est tu dors dehors.
Je dors dehors, c'est que je suis habité pour dormir dehors. C'est ça que quand je suis petit, je dors dehors. C'est que d'être dehors, là, ça ne me fatigue pas.
D'accord. Donc tu as de l'entraînement pour dormir dehors, toi.
Exactement.
D'accord. Et donc, quand ta maman elle est morte, c'est devenu plus compliqué pour toi?
C'est devenu plus compliqué que moi, parce que... C'est beaucoup compliqué pour moi parce que ma maman a des voisins, ils m'aident un peu, mais ils sont m'aidés un peu quoi. Mais
les voisins, ils t'ont aidé un peu, mais c'était compliqué.
Parce qu'il va dire que si j'ai besoin, je vais à la maison, il va me brûcher. Mais ma maman, quand je suis petit, m'a donné le maître de coranique.
Ouais.
Parce que quand tu rentres de maître de coranique, c'est lui qui va te grandir jusqu'à... Tu vas grandir, Kabyle ton petit, c'est lui qui va occuper toutes tes choses pour
qui
toi.
Qui va s'occuper de toi jusqu'à ce que tu sois
majeur. Tu ne rentres pas dans ta famille, c'est lui qui va occuper de toi. Mais en attendant, c'est là-bas, je sais que je n'ai pas bien là-bas. Mais avant, quand ma mère il m'a parlé, mon cousin était à Libye. Si j'ai fait le coranique, je partais à Libye, parce que Libye prend les ils ont fait le coranique aussi.
En Libye?
Oui, à Libye. Il dit que si je partais là-bas, je fais. Mais je partais là-bas, lui aussi, vraiment.
Donc t'es parti avec ton cousin?
Oui, j'ai parti, lui qui m'a amené chercher au Mali.
Mais il t'a amené en Libye, là où il vivait?
Là où il vivait, mais il m'a trahi aussi.
Il t'a trahi?
Oui, parce qu'il m'a donné un arabou. Comme je peux dire qu'il m'est vendu, mais on ne peut pas dire ça.
Oui.
Ouais, parce que l'arabou, il me mettait à côté de la mer avec son mouton. Ils sont beaucoup de moutons.
Donc tu devais travailler?
Oui, j'ai plus de travail, ils sont beaucoup de moutons. Si je n'ai pas fait me frapper, tout comme ça. Mais... À la nuit, j'ai vu beaucoup de gens qui rentraient au bateau et disaient qu'ils ne veulent pas aller en Italie. Chaque fois, j'ai vu les gens qui ne veulent pas aller en Italie à la nuit, à 0h, à 1h, comme ça. Moi aussi, j'ai décidé que...
Que tu allais partir aussi.
Je veux partir parce que je n'ai pas bien vu là-bas. Ouais.
Et donc, tu as pris un bateau. Comment tu as pu prendre? Tu as pu t'échapper?
Oui, j'ai m'échappé parce que j'ai m'échappé pour rentrer au bateau.
Donc, tu as pu prendre le bateau?
Oui.
Il a fallu que tu payes pour prendre le bateau?
Non, mais je n'ai pas eu rien. Tu
n'as pas payé?
Ouais, non, je n'ai pas payé. Parce que ici, j'ai travaillé à côté de la mer. Parce que j'ai des arabes qui m'apprennent et disent qu'ils me mettaient dans son mouton. J'ai regardé les moutons, parce qu'ils ont beaucoup de moutons pour donner les manger les moutons.
Ouais.
Je dors là-bas avec les moutons jusqu'à la nuit, quand les gens qui africains, ils sont beaucoup avec arabes, ils sont c'est que les gens qui payaient pour rentrer dans les bateaux pour venir en Italie. Moi si je viens, ils sont beaucoup nombreux. Alors moi aussi j'ai levé mon sitot, j'ai rentré pour les gens.
D'accord.
Pour j'échappais pour personne ne me connaît pas pour venir.
D'accord. Donc tu es un peu rentré en te faisant
exactement.
Tout petit.
Oui, tout petit, ouais. Exactement.
Vous étiez beaucoup sur ce bateau?
On est beaucoup. Je sais, on est beaucoup, on a 100 quelqu'un.
150?
5 quelques, ouais.
Ouais, 5 quelques.
5 quelques.
Et alors, tu as traversé la Méditerranée sur ce bateau?
Oui.
Ouais, ça a duré combien de temps, cette traversée la
Méditerranée? Cette traversée la Méditerranée, pour nous, parce que le bateau est cassé, on a fait 3 jours dans les l'eau.
3 jours?
3 jours dans les l'eau, oui.
Ouais. Et c'était difficile, ça, comme.
Oui, c'est difficile. C'est pas facile. Parce que quand la mort à la dent, quand il y a la mort à la dent, c'est pas facile.
Quand il y a?
Quand. Les gens qui meurent là-dedans, c'est pas
facile. Il y a des gens qui meurent dedans, dans le bateau.
Ouais, c'est dit que c'est pas facile.
Parce qu'ils tombent dans l'eau ou...
Tombent dans l'eau, tout comme ça. Il y a beaucoup de gens qui meurent dans les bateaux, mais les bateaux, quand les Italiens qui nous voient, c'est pas facile pour moi.
Ouais.
Parce que je ne peux pas parler.
Tu peux pas encore en parler.
Ah ouais. Ouais.
Fatoumata Diawara, artiste malienne, engagée notamment contre l'excision. Elle était ici en duo avec Mathieu Chédid. On termine cette émission et on complète le témoignage de ce mineur isolé étranger par un court extrait d'une conférence de Julien Bricot. C'était en 2016 au Centre Babel pour un colloque intitulé « Mineur isolé étranger, pouvoir enfin poser les valises ». Julien Bricot est éducateur spécialisé, il a publié en 2012 « Accueillir les jeunes migrants, les mineurs isolés étrangers à l'épreuve du soupçon ». Il nous propose ses réflexions et analyses sur l'évaluation à laquelle sont soumis les mineurs étrangers et sur les conséquences de cette évaluation sur la prise en charge de ces jeunes.
Le terme d'évaluation a vu son sens se restreindre considérablement ces dernières années. Ce qui focalise l'attention des pouvoirs publics, c'est la question de savoir si tel ou tel jeune doit ou non faire l'objet d'une mesure de protection. Ce qu'il s'agit d'évaluer, ce n'est donc pas la situation du mineur au sens large, c'est-à-dire comprendre ce qu'il en est de son parcours, de ses fragilités, de ses besoins, de ses ressources, de sa famille, de son projet de migration. S'il s'agissait de ce type d'évaluation, alors évidemment il faudrait du temps. Plus même que 5 jours, et beaucoup plus. Du temps pour protéger, pour soigner, pour faire connaissance, pour voir évoluer le jeune avant de commencer à penser à son avenir. Alors aujourd'hui, puisque cette question du soupçon, ça fait un peu plus de 10 ans que je la traîne avec moi, Aujourd'hui, ce qui m'apparaît clairement, c'est que le soupçon n'est qu'un mécanisme. Au fond, il sert de levier à une logique plus profonde, qui est celle du rejet et de l'exclusion. Les questions qui sont derrière, ce sont celles de l'accueil. Qui pouvons-nous accueillir? Jusqu'où pouvons-nous accueillir? Notre hospitalité doit-elle être limitée? Qu'est-ce qu'être vulnérable aujourd'hui et comment en tenir compte? Si on ne parvient pas à penser de façon positive l'accueil, à voir les bénéfices qui en résultent, si à l'inverse, on ne le perçoit que comme une charge, un fardeau, alors c'est une logique d'exclusion qui s'installe. Cette mécanique apparaît quand on commence à trouver que les gens dont on s'occupe sont trop nombreux ou qu'ils ne correspondent pas suffisamment aux prises en charge que nous leur proposons et que donc ce serait mieux finalement si nous cessions de nous en occuper. Je termine avec une remarque plus générale sur notre perception des phénomènes migratoires. Il faut se méfier plus que tout de l'effet de masse. Il n'y a pas de vague, il n'y a pas d'invasion, au sens où il s'agirait d'une masse de personnes indistinctes. Il faut plutôt aller chercher des histoires individuelles, comment les choses se sont construites pour chacun, comment sont-elles vécues. Il y a des destins à comprendre, des histoires, chacune différente, qui sont à l'origine de la mobilité. Dans chacune de ces histoires, il y a des contraintes, des décisions, des choix, des renoncements, des désirs. Quelle est la place et le rôle de chacun là-dedans? Ce n'est jamais tout à fait la même histoire. Et voilà donc, je pense, ce qu'il ne faut pas cesser d'affirmer.
Merci à Julien Bricot pour la justesse de ses remarques. On aimerait que ses paroles parviennent jusqu'aux oreilles des conseils départementaux du Tarn. Et d'ailleurs, des services qui font le sale boulot de l'évaluation.
Ranger les adieux, en la refermant j'ai eu un pincement au cœur. J'ai embrassé mon pays pour m'imprégner ton parfum. J'ai laissé ma mère une larme au creux des lèvres. Sans me retourner j'ai rejoint la plage, juste un amas de sable. Sauf pour les touristes, question de point de vue. Ils ont chargé nos corps, tellement d'espoir. Tassé dans une barque, une prière et on a pris le large.
Depuis l'enregistrement de cette émission, le jeune homme dont nous vous avons offert le témoignage a reçu une réponse de la juge, enfin. Il a été reconnu mineur et placé jusqu'à sa majorité. Justice est rendue, mais que de temps perdu.
Au milieu de l'océan, fixer l'horizon en chantant, des lumières clandestines éclairer le monde. Soudain, j'ai vu les vagues dresser entre mes rêves et j'ai vu des phares s'éteindre tout autour de moi. Malgré la tempête, mon bateau avance dans cette odyssée dont certains ne verront pas la fin. On avait soif, on avait faim, on se nourrissait juste de l'appétit du lendemain.
Merci aux avocates qui accompagnent les mineurs du Tarn dans leur démarche, Sarah Coury, Hélène Martin-Cambon, Claire Dujardin. Merci à tous et toutes les hébergeants, hébergeantes solidaires qui offrent un abri et plus encore à ces jeunes. La musique à Insa Sané, Fatoumata Diawara, Mathieu Chédid et Michel Berger. Merci à Will pour son soutien.